baisse à Pau. 14 degrés à Lyon, Biarritz et au Mans, 16 degrés à Nice et 17 degrés à Ajaccio et à Bastia.
Merci Marion, soyez les bienvenus sur Europe 1, voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
À la une, le bras de fer entre l'Europe et les États-Unis sur la question du Groenland face aux menaces de Donald Trump qui veut toujours s'emparer de ce territoire. Emmanuel Macron a annoncé hier l'envoi de soldats supplémentaires. Nous en savons plus ce matin sur le nombre d'hommes envoyés et les moyens mobilisés. Précision Europe 1 dans ce journal. En Iran, 800 exécutions de manifestants suspendus. C'est l'annonce des autorités américaines qui maintiennent la pression sur le régime des Mollahs, un régime qui compte aussi ses soutiens, notamment un influenceur installé en France. Dans ce journal également, la fin de la première semaine du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, le Rassemblement National veut en tirer un bilan positif. Et puis, après un ralentissement à la fin de l'année dernière, l'épidémie de grippe repart à la hausse. Vous allez l'entendre, ce sont les plus jeunes qui sont touchés par le virus. Il est 5h sur Europe 1, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Officiellement, selon l'Allemagne, c'est pour faire face aux menaces russes et chinoises que les Européens déploient des militaires au Groenland. Mais la menace la plus évidente aujourd'hui pour cette terre danoise en Arctique, ce sont les États-Unis. Donald Trump veut s'emparer de cette île et il a été clair hier. Cette mission militaire européenne n'a aucun impact sur son objectif.
Oui, il s'agit d'une mission de reconnaissance à laquelle participe la France. Les premiers soldats sont donc arrivés sur place cette semaine.
Et hier, lors de ses vœux aux armées, Emmanuel Macron a annoncé de nouveaux moyens. Jacques Serret, on en sait plus ce matin sur le dispositif envoyé au Groenland.
Oui, en réponse aux intentions de Donald Trump concernant le Groenland, Emmanuel Macron montre les muscles et fait cette annonce.
Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes.
Des moyens relativement limités. Il s'agit pour l'armée de terre de deux sections d'un régiment de chasseurs alpins, soit moins d'une centaine d'hommes. Pour l'aérien, il s'agit d'un avion, un appareil qui sera utilisé essentiellement pour faire du renseignement. Enfin, lorsque le chef de l'État évoque des moyens maritimes, il s'agit de l'envoi d'une frégate le long des côtes du Groenland. Des moyens qui répondent aux demandes formulées par les autorités danoises dans le cadre de l'exercice baptisé Groenland Arctique Endurance.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
En Iran, peut-être les premiers effets de la menace d'une intervention américaine. La Maison Blanche annonce cette nuit que 800 exécutions de manifestants programmées hier ont été annulées.
Oui, les pays du Golfe enjoignent Donald Trump à ne pas intervenir, mais Washington assure que toutes les options restent sur la table. De quoi maintenir la pression sur le régime des Mollahs, dont la répression sanglante a fait plus de 3000 morts en 20 jours.
Les Mollahs qui tentent de sauver les apparences, ils maintiennent leur propagande dans le pays, mais aussi à l'international.
Oui, et ils s'appuient pour ça sur des relais occidentaux. En France, par exemple, certains influenceurs très suivis sur les réseaux sociaux défendent les positions des autorités iraniennes. C'est le cas de Shahin Amazi, influenceur irano-algérien qui a grandi en Île-de-France, Jean-Baptiste Marty.
Tout commence par des voyages qui intriguent les autorités. Des allers-retours à répétition entre la France et l'Iran. Une fois sur place, Shahin Amazi ne se cache pas. Il pose aux côtés de hauts responsables du régime des Mollahs. Par exemple, devant le ministère des Affaires étrangères en plein Téhéran. En avril 2025, il est même invité aux funérailles de Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, un allié stratégique de l'ayatollah Khamenei. Sur les réseaux sociaux, l'influenceur, suivi par près de 500 000 abonnés, affiche clairement sa proximité avec le régime iranien. En France, il enchaîne les manifestations pro Mollahs en témoigne dans ce rassemblement en juin dernier à Paris.
Je suis iranien et on est déterminé à se défendre contre l'entité sioniste. L'Iran, non, on n'est pas terroriste. L'Iran se défend.
Un discours ouvertement anti-Israël. Il doit même être jugé en avril prochain pour apologie du terrorisme après des posts sur les réseaux sociaux au lendemain du 7 octobre. L'influenceur proche de la France insoumise participe également à des conférences. LFI, parti qui reste aujourd'hui très discret sur la répression en cours.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
Il est 5h04, vous écoutez Europe 1, bonjour.
La France va-t-elle avoir un budget ce mois de janvier, comme le souhaite le gouvernement ? L'issue semble proche.
Les débats ont été annulés à l'Assemblée nationale aujourd'hui et lundi, reprise des discussions prévues mardi. Sébastien Lecornu espère d'ici là dégager les conditions d'une non-censure avant d'emprunter la voie du 49-3 ou de l'ordonnance pour faire passer le texte sans vote. Un conseil des ministres extraordinaire pourrait avoir lieu ce week-end pour l'autoriser.
La première semaine du procès en appel des assistants parlementaires du FN s'est achevée hier soir. Fanny, reprise prévue lundi.
Hier, au dernier jour d'audience de la semaine, le directeur général des finances du Parlement européen a été auditionné pendant 6 heures, se défendant de tout manque de clarté dans les règles de l'institution, car c'est là tout le cœur du problème. L'issue de ce procès pourrait faire basculer l'avenir politique de la chef de file des députés RN, qui est pour l'heure en position d'inéligibilité. Mais à la fin de cette première semaine, le bilan est plutôt positif pour le Rassemblement national, Maïhélène Trémollet.
Concrètement, le parti n'a rien obtenu de définitif cette semaine, mais par rapport à la première instance, le ton a changé, l'atmosphère aussi, comme l'explique l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselu.
Quand vous soutenez que vous faites l'objet d'un mauvais traitement judiciaire et qu'en cause d'appel, on vient reconnaître que vous avez fait l'objet d'un mauvais traitement judiciaire, c'est un soulagement.
Parmi les signaux considérés positifs par le RN, la demande du parquet général de retirer une partie des contrats d'assistants parlementaires pour lesquels Marine Le Pen avait été condamnée en première instance. Si à ce stade la cour d'appel réserve sa réponse définitive pour le délibérer, cette demande sonne comme une preuve pour les prévenus qu'ils bénéficieront d'un véritable procès en appel dans lequel ils seront écoutés. Procès d'autant plus crucial qu'il intervient en plein cœur de la campagne des élections municipales. Candidat à sa succession à la mairie de Perpignan, Louis Alliot a ainsi demandé à la cour un renvoi de son cas pour pouvoir se consacrer à sa campagne. Renvoi qui lui a été refusé contre une possibilité d'aménager au moins partiellement son calendrier. De son côté, Marine Le Pen, dont l'audition est attendue mardi, est aujourd'hui aux côtés de Franck Alizio pour soutenir sa candidature à Marseille.
Maïhélène Trémollet du service politique d'Europe 1. En Corse, l'enquête sur la mort d'Alain Orsoni avance. Hier soir, le nouveau parquet national anticriminalité organisé a confirmé qu'un seul tir a provoqué la mort de cette figure du nationalisme corse lors des obsèques de sa mère en début de semaine, la semaine dernière. Le PNACO qui confirme également que plusieurs blessures ont été constatées sur le défunt, car la balle a visiblement également traversé son bras, munition qui provient d'un fusil de chasse au sens large. Elle nous avait offert un répit en fin d'année comme un cadeau de Noël, mais l'épidémie de grippe reprend de plus belle. Les autorités sanitaires espéraient qu'un pic soit passé avec la nouvelle année, mais après un bref déclin, les consultations en ville ont rebondi ces derniers jours. Yasmina Katou, une tendance particulièrement marquée chez les enfants de moins de 15 ans qui pourrait se répercuter chez les adultes.
Oui, depuis la fin des vacances scolaires, le pédiatre Robert Cohen voit défiler chaque jour dans son cabinet des enfants avec tous les symptômes de la grippe.
On fait des prélèvements presque systématiquement aux patients. Et là, on a une vraie remontée de la grippe. Et les petits-enfants ne sont pas mieux protégés que les autres.
Le dernier bilan de Santé publique France montre une augmentation des hospitalisations des enfants de moins de 5 ans. Cette reprise de l'épidémie chez les petits pourrait entraîner une recrudescence chez les adultes, prévient le médecin.
Pour la grippe, depuis des années, on sait que ce sont les enfants qui sont les vecteurs de l'épidémie. Il a été recommandé de vacciner les enfants pour les protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger aussi les autres. Les enfants ne sont pas vaccinés, l'épidémie est massive.
Une épidémie qui semble aussi meurtrière que l'hiver dernier. Un peu plus de 7% des décès enregistrés sont liés à la grippe, comme l'année dernière à la même période. Pour rappel, lors de la saison précédente, plus de 17 000 personnes sont décédées de la grippe.
Yasmina Katou.
Merci Fanny Marceau. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bon réveil à 5h08, puisque votre week-end approche. N'oubliez pas que chaque samedi, de 13h à 14h, sur CNews et sur Europe 1, vous retrouvez face à Michel Onfray, interrogé par Laurence Ferrari. Michel Onfray, philosophe et polémiste, passe en revue l'actualité de la semaine, Marion.
Oui, face à Michel Onfray, c'est à écouter chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1, bien sûr.
Nous sommes le vendredi 16 janvier, excellente fin de semaine.
Vous écoutez Europe 1, bonjour avec Alexandre Lemaire et dans quelques instants, c'est la revue de presse internationale.
Et nous serons notamment chez nos voisins britanniques qui s'apprêtent à avoir le nombre de décès dépasser le nombre de naissances, comme c'est déjà le cas en France. D'abord les courses, Thierry Léger, votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses en semi-nocturne. nocturne sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 402 Rembrandt To Go, déjà lauréat cet hiver d'un handicap sur le parcours qui nous intéresse, puis excellent deuxième d'un quintet le 30 décembre, toujours à Deauville, sur le même tracé que celui qu'il empruntera. Ce pur sang, à peine âgé de 4 ans, en constant progrès, devrait pouvoir ici justifier sa position de solide favori. Notez bien pour Deauville, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 2, Rembrandt To Go.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du quintet juste après le journal de 5h30 sur Europe 1. Dans deux minutes maintenant, votre histoire dingue, Marion, vous allez nous parler d'une application ce matin.
Oui, une application devenue virale et c'est surtout son nom qui est surprenant et qui fait parler, vous verrez. Il est 5h10 sur Europe 1.
La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. Inès, à la une de la presse libanaise.
Eh bien, on parle de l'impact des manifestations en Iran sur le Hezbollah. Le groupe chiite libanais pourrait-il survivre à une chute du régime en Iran ? L'Orient le jour s'interroge. Pour le quotidien francophone, la chute des Mollahs affaiblirait fortement le Hezbollah, qui n'aurait d'autre choix que se désarmer totalement. D'après le média égyptien Ahram Info, le Hezbollah verrait ses capacités financières considérablement réduites, car le régime iranien est sa principale source de financement, mais sans pour autant s'effondrer immédiatement. Le groupe chiite se verrait alors contraint de s'intégrer dans la société libanaise. En effet, le Hezbollah pourrait s'adapter plutôt que de disparaître, affirme l'Orient Today. Il pourrait se réinventer en redéfinissant sa stratégie et ses moyens de financement et en se tournant davantage vers sa base locale au Liban.
Nous partons à présent aux États-Unis. Rémi Amalvi, vous êtes à Washington. Pour Europe 1, qu'avez-vous vu à la une des médias américains ?
À partir du 21 janvier, les États-Unis vont mettre en pause les demandes de visa d'immigration des ressortissants de 75 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Russie, le Brésil et l'Égypte. Selon l'administration Trump, notamment reprise par Fox News, les ressortissants de ces pays auraient tendance à profiter des aides sociales américaines et feraient peser un poids énorme sur le dos du contribuable. CBS News a fait le calcul, cette mesure affecte environ 38% des nations du globe et elle s'inscrit dans une politique de restriction agressive de l'immigration aux États-Unis, estime le Time Magazine, qui rappelle que le gouvernement américain a déjà banni les cartes vertes pour une quarantaine de pays l'an dernier. Mais la mesure est critiquée par une partie de la presse américaine plus progressiste, comme le Washington Post, pour qui les arguments de l'administration américaine ne sont pas fondés. Selon ces médias, cette mesure cible encore une fois des pays dits du Sud, en majorité non blancs, déjà désavantagés par des passeports généralement peu puissants.
Nous allons enfin au Royaume-Uni. Sarah Menei, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les journaux britanniques ?
Du pays qui s'apprête à franchir un cap démographique, nouvelle ère pour The Independent, année charnière pour le Times et point de basculement pour Sky News, les médias britanniques reprennent l'étude d'un think tank qui estime que la fécondité au Royaume-Uni est officiellement passée sous le seuil de renouvellement des générations. La population vieillit plus vite qu'elle ne se renouvelle. Citant l'exemple de la France, qui a, comme le Royaume-Uni, enregistré plus de décès que de naissances en 2025, la BBC précise que chez les Britanniques, rien n'indique un rebond durable susceptible d'inverser cette tendance. Économiquement, le Financial Times explique que ce basculement change tout, notamment en matière de financement des dépenses publiques. Le quotidien alerte alors sur le déséquilibre structurel qui attendrait le Royaume-Uni.
Sarah Menei à Londres pour Europe 1.
C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h12. À suivre, comme chaque jour, dans 5 minutes, ce sont les initiatives en France, Alexandre.
Et ce matin, une application pour prendre soin de votre chat, dans votre cas, de votre chien,
oui.
Marion, voilà. Une application qui sait tout faire. Carnet de santé intelligent, elle vous rappelle les vaccins à faire. Analyseur de symptômes en cas de maladie. On vous présente ça dans 2 minutes.
Europe 1.
Bientôt 5h15, votre histoire dingue. Marion Gagnon, ce matin, c'est l'histoire d'une application qui porte un nom vraiment bizarre.
Je ne suis pas mort.
Oui, une application chinoise à télécharger sur smartphone. Alors, à la base, c'est une application très simple et d'utilité publique, hein, puisqu'elle permet aux personnes qui vivent seules de ne pas se sentir totalement isolées en informant un proche de son état de santé. Bon, c'est de manière très sommaire, mais c'est utile.
Bon, c'est une appli qui se permet juste de déclencher, comme elles savent le faire, une alerte si l'utilisateur ne se connecte pas toutes les 48 heures.
Voilà, et le nom de cette appli est très évocateur, puisqu'elle s'appelle « Es-tu mort ?»
Oui, c'est sympa. ça jette un froid.
Ça jette un froid, voilà. Concrètement, l'utilisateur doit prouver qu'il n'est pas mort en se connectant régulièrement sur l'appli et en appuyant sur un gros bouton vert. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est peut-être mort. Donc dans ce cas, une personne désignée lors de son inscription par l'utilisateur reçoit un mail pour l'alerter d'un éventuel problème. Bon, dans le fond, c'est pas mal, mais dans la forme, c'est un peu glauque et maladroit quand même.
Hein. Ah bah maladroit, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Alors c'est ce nom, en tout cas, qui a permis à l'application de devenir virale, Marion.
Oui, de nombreux utilisateurs se sont précipités pour la télécharger hein, par peur qu'elle ne soit retirée des boutiques d'applications à cause de son nom jugé trop négatif. Tu m'étonnes. C'est comme ça qu'elle s'est rapidement retrouvée numéro 1 des applications téléchargées sur l'App Store chinois et que les médias du monde entier s'y sont intéressés. Hein. Et suite à cette attention mondiale et aux nombreux retours négatifs, bah, c'est vrai que le nom est jugé quand même beaucoup trop provocateur, et bien l'appli a annoncé mardi, Alexandre, qu'elle allait changer de nom pour de Mumu.
Ça veut dire quoi ça?
Eh bien rien du tout.
Ah,
voilà.
Bon, d'accord, tout
comme
simplement.
Ça, voilà, okay. Personne ne pourra plus s'offusquer. Certains ont montré leur déception face à ce changement, forcément en disant que l'appli perdait de sa saveur et surtout qu'elle perdait son potentiel de viralité. Mais au moins, plus personne ne sera choqué et on pourra se concentrer sur sa mission première, à savoir assurer la sécurité de chacun.
Ah oui, parce que partout dans le monde, et particulièrement en Chine, il y a une explosion de personnes qui vivent seules, en fait,
c'est vrai,
Marion.
C'est vrai, surtout dans les grandes métropoles, hein, les personnes seules représentent 20% des foyers chinois quand même. Et ça concerne les étudiants, les jeunes actifs et les personnes vulnérables. Donc toutes ces personnes qui vivent loin de leurs proches et qui craignent qu'un accident ou un malaise ne passe inaperçu sont rassurées avec cette application. Et De Mumu envisage désormais une version dédiée aux personnes âgées. Oui, je ne sais pas si je préférais pas Es-tu mort finalement que De Mumu.
Ouais, bon,
écoutez, c'est une bonne chose, mais même sans l'application, voilà, prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Hein, la technologie, c'est bien. Le lien social, c'est quand même beaucoup mieux, Alexandre.
Oui, hein, il suffit d'aller
voilà.
Frapper à la porte, tout simplement.
Exactement.
Son voisin de palier, par exemple, ses proches qui vivent seuls, un petit coup de téléphone.
C'est plus simple.
C'est plus simple, c'est plus naturel aussi.
C'est plus chaleureux.
C'est peut-être plus humain, tout simplement.
Exactement.
Votre histoire dingue. Merci, Marion Gagnon.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h, Alexandre Lemaire.
Bon réveil, 5h16 sur Europe 1, le journal permanent, Fanny Marceau.
La France va-t-elle bientôt sortir de l'impasse budgétaire? Les débats à l'Assemblée sont annulés aujourd'hui et lundi. Reprise des discussions prévues mardi. Ce week-end, un conseil des ministres extraordinaire pourrait autoriser le Premier ministre à avoir recours au 49-3 ou aux ordonnances. L'Europe au secours du Danemark en terre groenlandaise face aux menaces de Donald Trump qui veut s'emparer de l'île arctique. Plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne ou la Norvège, envoient une mission de reconnaissance au Groenland dans le cadre de l'exercice danois Arctic Endurance. Le président américain assure que ce déploiement n'a aucun impact sur son objectif. Donald Trump, qui a par ailleurs déclaré hier que le Conseil de la paix pour Gaza a été formé, étape centrale du plan américain pour le territoire palestinien, ajoutant que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés prochainement. Ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates. Et puis en sport, victoire hier soir à Oslo de l'équipe de France de handball, 48 à 28 contre la République tchèque. Première rencontre du championnat d'Europe et première blessure pour le maître à jouer de l'équipe de France, Aymeric Mine, qui a dû quitter le terrain à la suite d'une béquille à la cuisse gauche.
Europe 1.
Merci Fanny Marceau. Juste avant le journal de 5h30, dans 10 minutes sur Europe 1, vous allez écouter ce matin Julien Lib et Laura Pausini.
C'est le duo surprise. L'ancien finaliste de la Star Academy et l'icône italienne chantent ensemble, en partie en français, hein. Sur une reprise de ce titre italien, c'est la dernière chanson.
Il est 5h17 sur Europe 1, les initiatives en France. Ce matin, une appli pour faciliter la vie des propriétaires d'animaux. Bonjour docteur Jean-Stéphane Pouvreau.
Bonjour Alexandre.
Vous êtes le fondateur de Wizipet. Alors Wizipet, c'est une application à télécharger sur son smartphone qui se présente comme un vrai petit couteau suisse en fait, hein, pour tous les propriétaires d'animaux de compagnie.
Tout à fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est d'aider les propriétaires de chiens et de chats à prendre soin de leur animal et à leur faciliter la vie au quotidien en leur apportant tout un tas d'outils, de services et d'informations.
Alors, on va voir ça en effet avec vous. Une appli tout en un, donc, tout ce qu'il faut penser à faire pour son chien, pour son chat. Là, votre appli Wizipet, elle va venir nous le rappeler.
Exactement. C'est-à-dire que vous allez, dans un premier temps, rentrer toutes les caractéristiques de votre chien ou de votre chat. Les derniers rappels de vaccins, de vermifuges, d'antiparasitaires par exemple. Et l'application ensuite fait les calculs et vous apportera les bons conseils au bon moment et les bons rappels.
Bon, c'est important, on parle beaucoup de la charge mentale, hein, à tout propos, hein, d'ailleurs, toutes les choses à faire à la maison, qu'il faut garder en tête, qui s'accumulent. Ici, on est en plein dedans, en fait, vous proposez de l'alléger, cette charge mentale, pour tous les propriétaires de chats, chiens et autres.
Exactement, en fait, les animaux de compagnie ont de nombreux besoins différents et qui sont finalement assez similaires aux besoins des jeunes enfants. Il faut les élever, les éduquer, gérer leur santé, leur sécurité, il faut voyager, partir en vacances avec eux, s'occuper de leur alimentation, de leur exercice, il faut jouer avec eux. Et donc tout ça, effectivement, ça génère de la charge mentale, comme pour les parents. D'ailleurs, on parle de pet parents maintenant. Et Wheezy Pet est là pour soulager tout ça.
Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites comme pour les jeunes enfants, on va en effet parler un petit peu de vous, Jean-Stéphane Pouvreau. Vous êtes vétérinaire, hein. Et vous définissez vous-même justement comme un pet parent. Un pet parent, un vrai papa de, je sais pas, de chat, de chien.
De chien, oui, tout à fait.
Et vous citez ce chiffre à l'appui d'ailleurs de ce que vous dites, hein, 36%, plus d'un tiers des propriétaires d'animal de compagnie le considèrent, oui, en tout cas le traitent comme leur enfant aujourd'hui.
Oui, c'est même un chiffre qui monte à 46% pour les femmes entre 35 et 44 ans.
Vous avez intégré dans votre appli, vous dites qu'elle fonctionne comme un carnet de santé intelligent, ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire que, en fait, l'application va s'occuper de gérer la santé de votre animal pour vous. À partir du moment où vous avez initialisé, comme je disais, les premières informations, en fonction des produits que vous avez administrés, l'application calcule toute seule les détails pour chaque produit afin de vous rappeler le bon moment de pratiquer les rappels et de reprendre rendez-vous chez votre vétérinaire ou de racheter un vermifuge ou un antiparasitaire, par
Donc,
exemple.
Ça veut dire quoi qu'elle va pouvoir nous biper, nous notifier cette appli de « attention, là, il y a un vaccin
». Exactement, elle va vous notifier 15 jours avant, puis une semaine avant. On a d'autres fonctionnalités, par exemple, elle est capable d'interpréter aussi le poids de votre animal, puisqu'on a 30 à 40% des animaux qui sont en surpoids. Donc, elle va vous aider à vous situer par rapport à ça et vous proposer des programmes de régime et d'amaigrissement si votre animal a besoin de retrouver son poids de forme.
Oui, alors vous avez aussi dans cette appli un analyseur de symptômes. Alors, si mon chat, mon chien est malade, je fais quoi? Je décris ce qu'il a?
Alors, exactement, en particulier le soir ou le week-end, quand votre vétérinaire traitant votre clinique est fermé, l'application va vous donner un premier avis. Vous allez répondre, vous allez décrire effectivement les symptômes qu'il a, et l'application va vous lister les pathologies potentielles, vous donner un premier avis sur ce que ça pourrait être, sur le niveau de gravité, et va vous dire si vous pouvez vous permettre d'attendre ou s'il faut consulter en urgence. Et auquel cas, elle va vous mettre en relation avec les vétérinaires à proximité de chez vous.
Géolocaliser aussi en cas de perte de son animal?
Oui, alors si vous perdez votre animal, effectivement, vous allez pouvoir lancer une alerte, je dirais, préformatée, de façon à n'oublier aucun détail et aucune information. Et tous les autres membres de la communauté, dans un rayon de 50 km, vont être prévenus et vont pouvoir vous contacter s'ils ont aperçu l'animal ou s'ils l'ont récupéré.
Alors voilà, on en vient à une autre effectivement fonction de votre appli. Elle fonctionne, vous l'avez dit, comme une communauté. Hein. Vous dites qu'elle permet de rompre l'isolement, docteur Pouvreau.
Exactement, parce qu'en fait, on a deux aspects par rapport à ça. L'application est capable de gérer à la fois une communauté locale et une communauté générale ou nationale. Au niveau local, si vous voulez, on a une carte interactive sur laquelle vous allez pouvoir visualiser les autres propriétaires autour de vous, voir l'animal qu'ils ont et rentrer en contact avec eux à travers une messagerie interne pour leur proposer, par exemple, d'aller vous promener ensemble, enfin, promener les chiens ensemble, vous rendre des services, vous demander des informations, etc.
Bon, ça fait beaucoup de choses, tout ça, pour une appli Wheezy Pet, je rappelle son nom, une appli qui est gratuite. Hein.
Exactement, c'est une application qui est gratuite, qui est téléchargeable sur Android et sur Apple.
Et alors, comment vous faites pour vous y retrouver financièrement? Comment vous fonctionnez?
Alors, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de services qui sont proposés par des partenaires. Par exemple, si vous décidez de partir en vacances et que vous cherchez un hébergement pet friendly, un hôtel ou une location, on a un partenariat avec le groupe Expedia et donc vous allez pouvoir repérer sur la carte, sélectionner l'hébergement qui vous conviendra. Et quand vous prenez une réservation, Nous, on perçoit une commission de la part d'Expedia, par exemple.
Docteur Jean-Stéphane Pouvreau, vétérinaire, je le rappelle, merci.
Avec plaisir.
Vétérinaire donc et fondateur de Wizipet, l'appli tout en un pour les propriétaires d'animaux de compagnie.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
Europe 1, il est 5h23, merci d'être avec nous ce vendredi matin. Dans un instant, le journal de Christophe Lamarre. D'abord un réveil en musique, Marion.
Et on écoute un titre tout neuf, Alexandre, sorti aujourd'hui même. Et c'est une collaboration entre le finaliste de la Star Academy saison 11, Julien Lib, et la star internationale Laura Pausini. Ça s'appelle La Dernière Chanson. Bon réveil sur Europe 1.
On est deux étoiles qui brillent dans l'univers. On se regarde de loin, toujours un peu fier. Je ne connais pas ton désert, le mien il est là dans mon cœur. À chaque fois que je te perds, à chaque fois que je te sers.
Le temps passe et j'oublie qui je suis, à deux rues de chez toi. Je ne sais plus quand finit la nuit, le ciel est tombé si bas. Faudrait que je t'écrive, que j'ai enfin le courage. Mais j'ai peur de ce qui arrive, et de tourner la page.
Siamo un libro sul pavimento di una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'ingovero sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male se la dernière chanson è juste après la lune explosera. Je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique. Chanson pour toi. On est deux étoiles qui brillent dans l'univers. À crier sur tous les toits qu'on a peur du noir.
Plus personne ne fait ça aujourd'hui. On ne voit même plus ça dans les films. Sur ton lit, il y a
des fleurs pour moi. Il y a mon gilet en métal. Siamo un libro sul pavimento di una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male se la dernière chanson è giusta.
La dernière chanson, Julien Lib et Laura Pausini sur Europe 1. Et sachez que Laura Pausini sera présente sur le plateau de la Star Academy ce samedi, si vous êtes fan.
Voilà. Nous sommes le vendredi 16 janvier, dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, Marion, le Club Culture. Dans 20 minutes maintenant, le livre du jour.
Et chaque vendredi, Nicolas Carreau vous parle d'un roman culte, c'est Le Nom de la Rose ce matin.
Les nouveautés musicales avec Joe Hume.
Le groupe Archive, l'un des membres des Red Hot Chili Peppers en solo, et Bruno Mars, encore un programme bien chargé avec Joe tout à l'heure.
Après le journal, la situation situation au Groenland. Donald Trump veut toujours mettre la main dessus. La France et ses alliés européens ont envoyé des soldats. Alors, quelques soldats, normalement, ça doit suffire, se dit-on. Comment imaginer, en effet, une confrontation directe avec notre allié américain? Mais si les choses se passaient autrement? Ne manquez pas mon invité, le général Bruno Clermont, le consultant défense, sera avec nous dans 10 minutes après le journal.
La météo avec Avenir Rénovation. Votre partenaire confiance pour tous vos travaux. avenir-rénovation.fr.
La météo, Marion, c'est le début d'un épisode pluvieux dans le sud-est.
Et oui, la perturbation qui a traversé les côtes bretonnes et normandes hier va s'éloigner vers l'est. Elle va perdre en intensité, mais il va pleuvoir aujourd'hui entre la Nouvelle-Aquitaine et la Champagne-Ardenne. Et puis il va surtout pleuvoir sur les Cévennes. C'est effectivement le début d'un épisode cévenol qui va durer plusieurs jours. 80 à 100 mm sont attendus localement entre l'Ardèche et la Lorraine d'ici la fin de journée, donc c'est quand même assez conséquent. Soyez prudents. Ailleurs, le temps sera calme, plutôt variable. C'est en Alsace aujourd'hui et en Normandie, sur le Cotentin, que vous aurez le plus de chances de profiter d'éclaircies. Sinon, ça restera quand même assez maussade. Côté température, c'est toujours la douceur qui prime. Cet après-midi, vous aurez 5 degrés à Embrun, 8 à Gap, 10 degrés à Dijon et à Dunkerque. 11 degrés à Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Lille et Clermont-Ferrand. 12 à Paris, Colmar et Lorient. 13 à Nantes, 14 à Grenoble et à Montpellier. 15 à Marseille et 17 degrés à Ajaccio en Corse.
Merci Marion Gagnon. Bonjour et bon réveil. Vous êtes sur Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
À la une, ce matin, le gouvernement reconnaît l'impossibilité d'adopter un budget dans les temps. Ce sera donc le 49-3 ou bien le recours aux ordonnances. Le Rassemblement National et la France Insoumise sont accusés de saboter les débats au Parlement. La crise au Groenland, le déploiement de troupes européennes ne change rien à l'objectif de Donald Trump. Il est toujours acquéreur, réplique la Maison-Blanche. Le Groenland n'est pas à vendre, répond le Danemark. Dans l'actualité également, la hausse des frais bancaires, plus 3% cette année en moyenne selon l'association CLCV. Il y a encore la possibilité de négocier, si ce n'est de changer de banque. Explication Europe 1 à suivre. Il est 5h30 sur Europe 1, le journal. Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sébastien Lecornu a fini par se rendre à l'évidence. Les débats sur le budget s'enlisent. Impossible de tenir les délais fixés, il faut donc changer de méthode. Ce sera le 49-3 ou les ordonnances. Le Premier ministre se laisse jusqu'à mardi pour choisir. En attendant, Alexis de la Fontaine, les discussions à l'Assemblée sont closes.
Oui, Sébastien Lecornu veut aller vite et surtout éviter le blocage à l'Assemblée nationale. Selon Matignon, la France insoumise et le Rassemblement national empêcheraient tout vote au Parlement en faisant, je cite, du sabotage. Un narratif censé permettre de faire avaler aux députés un passage en force dans les prochains jours. Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement doit trancher sa stratégie mardi prochain et le 49-3 est la piste privilégiée. C'est moins martial que les ordonnances, justifie un député Renaissance. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français sont contre le 49-3. La question qui se pose maintenant est celle de la censure. Les oppositions vont riposter avec plusieurs motions. Le Rassemblement national, la France insoumise, le Parti communiste et les écologistes ont déjà annoncé qu'ils les voteraient. Seuls les Républicains et le Parti socialiste laissent encore planer le doute. Ils attendent de voir la copie finale adoptée par le gouvernement. Mais si l'un des deux décide d'appuyer sur le bouton, Sébastien Lecornu sera renversé.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.
La crise au Groenland, Christophe. La France annonce l'envoi de militaires supplémentaires.
Une quinzaine de soldats se trouvent déjà sur place. Mission d'exploration européenne à laquelle participent également la Norvège, la Suède et l'Allemagne dans un contexte de tension avec les États-Unis. 15 soldats, c'est peu, mais ce n'est qu'un début. Emmanuel Macron l'a annoncé hier sur la base aérienne d'Istres à l'occasion de ses vœux aux armées.
La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Et je remercie le CEMA d'avoir rapidement, au contact de son partenaire danois, organiser les choses et se répondre présent aux demandes très concrètes qui étaient formulées. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire.
Emmanuel Macron, discours aux armées sur la base aérienne d'Istres hier. Les États-Unis toujours décidés à acheter le Groenland et guère impressionnés par le déploiement européen. Ça ne change rien à l'objectif de Donald Trump, dit la Maison-Blanche. Hors de question, le Groenland n'est pas à vendre, réplique le chef de la diplomatie danoise qui dément tout projet de cession.
Autre actualité brûlante pour Emmanuel Macron, la Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État convoque un nouveau sommet avec les élus de l'archipel. Un
rendez-vous boudé par les indépendantistes du FLNKS. L'Élysée compte sur ce sommet de trois jours pour sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse. Six mois après les accords de Bougival, Emmanuel Macron veut renouer le dialogue pour stabiliser les institutions de l'archipel. Institutions fragilisées par les violences de 2024 et une situation économique catastrophique. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui, Jacques Serret ?
Eh bien, le point de blocage, c'est le FLNKS. La principale organisation indépendantiste n'approuve pas l'accord de Bougival et refuse de venir à l'Élysée. Pour Emmanuel Macron, une résolution des problèmes institutionnels de l'archipel s'éloigne. Jean-Jacques Brault, ancien haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Il faudrait être vraiment dans l'illusion de croire, à mon sens, qu'on va déboucher sur quelque chose de durable et de concret. C'est techniquement impossible. Alors qu'il manque un parti qui, malgré tout, a une importance politique considérable dans les institutions calédoniennes actuellement, ça serait une illusion, vous voyez.
Alors l'objectif du chef de l'État n'est pas de renégocier l'accord de Bougival, mais de le clarifier via un document complémentaire attendu d'ici lundi. Un objectif pour le moins délicat, alors qu'en toile de fond se profilent des élections provinciales au mois de juin. Et sans avancée majeure, près de 40 000 Calédoniens pourraient de nouveau être exclus du scrutin, faute de dégel du corps électoral.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le gouvernement fait un geste pour calmer la colère des médecins. Il renonce à leur imposer des objectifs de réduction de prescriptions d'arrêt maladie, satisfaction des syndicats, mais il faudra que cela se traduise en actes, explique leur représentant. La grève des médecins libéraux a pris fin hier soir. À Lille, un babysitter placé en détention pour viol sur un enfant de près de 3 ans. Cet homme de 36 ans pourrait avoir agressé d'autres enfants. C'est en tout cas la crainte de la trentaine de familles qui ont eu recours à ses services. Il avait déjà été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs en 2020.
En Iran, à présent, le régime aurait renoncé à 800 exécutions de manifestants, selon Washington.
Et ce n'est pas la seule raison qui a retenu le bras de Donald Trump. Si Washington n'a pas frappé l'Iran, c'est aussi parce que les pays du Golfe l'en ont dissuadé. Son allié israélien aussi, la porte-parole de la Maison-Blanche, confirme que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé au président Trump de ne pas intervenir militairement en Iran.
Le régime des Mollahs fragilisé, mais toujours en place. Témoignage exceptionnel ce matin sur Europe 1, celui du neveu de l'ayatollah Khamenei qui se cacherait dans son fief de Machad.
Cet homme de 62 ans est médecin à Croix, près de Lille. Le docteur Mahmoud Moragdani s'appuie sur des sources personnelles pour dévoiler sa cachette. Selon lui, le guide suprême aurait trouvé refuge dans un mausolée. Caroline Baudry l'a rencontré et interrogé pour Europe 1.
Il doit être probablement à Machad, en dessous de la mausolée de Imam Reza, notre huitième imam chiite. Et lui, bien entendu, comme il est né à Machad, il a un résident en résidence, et en particulier au sein de la mausolée de Imam Reza. Il y a toute une structure, il y a des bâtiments, il y a même des hôtels. C'est un endroit qui est très visité, bien entendu, mais assez sûr parce que je pense pas que quelqu'un puisse oser d'attaquer au mausolée d'un imam chiite. Je pense qu'il luttera, il restera au pouvoir jusqu'à sa mort, que ça soit naturel ou accidenté ou provoqué par une confrontation. C'est quelqu'un qui était, à l'époque, avant la révolution, il se présentait plus aimable, mais qui était toujours mégalomain. Je n'ai pas participé à ce régime, malgré que il l'avait demandé, effectivement, mais j'étais plutôt en opposition et en accord avec mon père, qui est devenu un opposant au régime.
Un document et entretien réalisé par Caroline Baudry.
Il est 5h37, vous écoutez Europe 1, bonjour.
Ce nouveau coup de chaud dans l'actualité sur les frais bancaires, il devrait augmenter de 3% cette année, Christophe.
Les chiffres de l'association de consommateurs CLCV, attention, ces frais avaient déjà augmenté du même montant l'an dernier, en fonction de votre contrat. Le simple fait d'avoir un compte en banque vous coûtera entre 71 et 221 euros par an. Barthélémy Philippe, les clients ne sont pas obligés d'accepter cette augmentation, non, qui dépasse d'ailleurs largement l'inflation. Plusieurs stratégies existent pour réduire ces frais bancaires.
Oui, d'abord, rien n'empêche de négocier avec son conseiller pour obtenir une ristourne sur vos frais bancaires. En cas d'échec, faire jouer la concurrence est une excellente option, explique Sandrine Perrois, juriste pour l'association CLCV.
Le même panier de services peut aller du simple au double en termes de tarification. Ça vaut le coup de regarder la concurrence.
Vous pouvez aussi opter pour les banques en ligne, BoursoBank, B4Bank, Hello Bank ou encore Fortuneo. Elles ne facturent pas de frais de tenue de compte, contrairement à la quasi-totalité des établissements physiques. C'est donc une option à ne pas négliger.
Elles sont compétitives, effectivement. Il faut être autonome pour faire ces opérations. Il faut rester vigilant sur les éventuelles conditions que les banques en ligne peuvent poser, revenus ou conditions d'utilisation de la carte. Mais ça peut être une solution pour économiser.
Si vous restez dans votre banque, de simples réflexes permettent de faire baisser les frais. Privilégiez les retraits gratuits dans les distributeurs de votre établissement. Vérifiez que votre formule est la moins chère en fonction de vos besoins. Vous possédez peut-être une carte haut de gamme sans utiliser les services associés. Dans ce cas, n'hésitez pas à la remplacer par une carte classique qui vous coûtera nettement moins cher.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les aéroports parisiens tournent enfin la page Covid. Leur fréquentation a quasiment retrouvé les niveaux de 2019 à 1% près. Afrique, Amérique du Nord, territoire d'outre-mer, dans cet ordre, sont les lignes les plus dynamiques. En revanche, les liaisons à l'intérieur de la France métropolitaine continuent de reculer. Et puis les sports, le championnat d'Europe de handball. La France réussit son entrée face à la République tchèque. Large victoire des tenants du titre hier soir, 42-28. Prochain match pour les Bleus, eh bien ce sera demain soir face à l'Ukraine.
Christophe Lamarre, merci. C'était votre journal de 5h30. Bientôt 6h20 sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver les pronostics du quintet de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre. C'est sur les 2500 mètres de la piste en sable fibré d'Auvillès que va se courir ce quintet, un handicap qui réunira un lot homogène de 16% âgés de 5 à 11 ans. Et pour bâtir mon pronostic, il est légitime de faire confiance aux concurrents ayant fait l'arrivée d'un quintet similaire le 22 décembre sur ce tracé des 2500 mètres avec les numéros 3 Barbat et 6 Nasdaq respectivement, deuxième et troisième, mais aussi Incremental, le numéro 5, arrivé cinquième ce jour-là, tout près de mes deux favoris, non sans avoir eu les pires difficultés à s'exprimer dans la phase finale, alors qu'il avait visiblement les ressources nécessaires pour disputer activement la victoire. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Zelzari, le numéro 7, facile lauréat le 22 décembre de la deuxième épreuve de ce quintet référence et qui me paraît tout à fait capable ici de franchir un nouveau palier, avec le numéro 1, Azapico, en plein boom actuellement et sachant finir ses courses. Enfin, les numéros numéro 11, Caléo Palace, 9, Aviasor et 16, Tic Tac compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 6, 5, 7, 1, 11, 9 et 16.
Merci Thierry Léger.
Et vous connaissez la marche à suivre pour retrouver tous les pronostics de Thierry Léger. Rendez-vous sur l'application Europe 1 ou sur europe1.fr.
6h20, c'est l'heure de jouer sur Europe 1. Marion Gagnon, nous sommes vendredi. Il est encore possible de remporter ce cadeau que vous nous décrivez cette
semaine. Et oui, c'est votre dernière chance aujourd'hui. Et ne passez pas à côté de ce voyage d'exception qu'Europe 1 vous offre. 11 jours pour deux personnes au Vietnam avec Salin Holidays. C'est le spécialiste des circuits accompagnés. Alors, en compagnie de guides francophones, vous allez découvrir Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, le delta du Mekong, Hue, la cité impériale et Ninh Binh. Et puis, vous allez vivre des expériences incroyables. Vous allez voguer en bateau dragon sur la rivière des Parfums et à bord d'une jonque traditionnelle, eh bien, la baie d'Along s'offrira à vous. Ça fait rêver. Découvrez ce magnifique voyage sur salin-holidays.com ou en agence de voyage.
Pour la question du jour, Europe 1 vous propose en podcast des entretiens issus de ses archives dans les Destins Extraordinaires sur l'appli et le site Europe 1. Aujourd'hui, un entretien de 1986 où Jean-Claude Brialy reçoit Michel Bougenat. C'était juste avant le tournage du film Lévi et Goliath. Qui a réalisé le film Lévi et Goliath? Réponse A, Claude Zidi. Réponse B, Gérard Houry.
Pour tenter votre chance et répondre à la question, vous envoyez simplement Vietnam au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et chaque jour, un gagnant est également tiré au sort parmi les inscrits pour remporter son abonnement de 3 mois au JD News. Félicitations donc ce matin à Samuel qui habite en Moselle et qui remporte l'abonnement mis en jeu hier. Bravo à vous Samuel.
Mais bravo et puis bonne chance à tous.
Oui,
c'est à
chance.
Vous de jouer à présent, chers auditeurs.
Europe 1, il est 5h42. Votre invité ce matin, Alexandre, est le général Bruno Clermont, consultant défense et général de corps aérien.
Bonjour général Bruno Clermont.
Bonjour.
Donald Trump veut le Groenland. Le Groenland ne veut pas de Donald Trump. Alors pour marquer l'appartenance de ce territoire au Danemark, la France, avec d'autres pays européens, va participer à un exercice militaire. Nous envoyons au Groenland 15 soldats. On fait quoi avec une poignée de militaires sur un territoire grand comme 4 fois la France ?
Oui, effectivement, on peut se poser la question. Le Groenland est immense. La pression américaine sur le Danemark et le Groenland est également immense. Donc les Européens ont décidé de marquer leur solidarité vis-à-vis du Danemark en acceptant, en répondant à une invitation pour l'exercice qui est à l'initiative des autorités du Danemark. Donc c'est effectivement pour l'instant 9 pays, ce qui est déjà pas mal hein, quand même, qui ont déclaré envoyer des troupes, avec pour l'instant ce qu'on appelle des précurseurs, c'est-à-dire une petite équipe qui va voir sur place en fait ce qu'on va faire dans l'exercice, qui vont bâtir l'exercice. Donc c'est effectivement symbolique, mais c'est malgré tout très réel. Et ça plaît beaucoup, en tout cas, aux habitants du Groenland.
Oui, bah, j'imagine. Alors, c'est 9 pays, et j'allais dire à peine plus de militaires, mais on est effectivement dans le symbole, vous nous le dites, Général Bruno Clermont, cette marque de solidarité affichée des Européens, la vraie raison de dissuader Donald Trump de mettre la main sur le Groenland. On a quand même entendu les sarcasmes de Donald Trump à propos des... Alors là, c'était à propos des renforts danois. Il dit, ils ont ajouté un chien de traîneau pour défendre le Groenland. Visiblement, il n'est pas très impressionné, hein, le président américain.
Non, mais il n'y a pas grand-chose qui l'impressionne. Vous avez remarqué. Et puis, c'est quand même pas très aimable vis-à-vis du Danemark, qui est vraiment un allié fidèle des Américains dans l'OTAN depuis des années. Donc, non, c'est des phrases qui sont à la Donald Trump et qui sont vexatoires et qui, en réalité, ne sont pas acceptables vis-à-vis d'un partenaire historique et aussi fiable que le Danemark. Mais vous avez raison, Donald Trump veut le Groenland et Donald Trump aura le Groenland.
Vous dites qu'il aura le Groenland. Vous dites qu'il l'aura.
Alors, il l'aura. En tout cas, il l'aura. Il n'aura, d'abord, il ne l'aura pas par la force, il l'aura par la pression, par la négociation, par la mise en place de relations renforcées, et il l'aura parce qu'il en a besoin, parce que la logique de Donald Trump, c'est la logique déjà lancée, initiée par Obama en 2008, c'est le pivot vers l'Asie, c'est que demain, le grand compétiteur, la grande menace pour les États-Unis, qu'elle soit militaire, politique, économique, stratégique, c'est la Chine.
Oui.
Et donc tout est compris à l'aune de de la préparation de cette grande confrontation, préparation qui a déjà commencé. Et le Groenland en fait partie. L'Arctique et le Groenland sont dans cette équation de rapport de force avec la Chine.
Bon, ces soldats français et européens au Groenland, c'est une façon d'invalider toute idée que les États-Unis vont envoyer leur armée prendre ce territoire. C'est vrai qu'on est des alliés historiques, on est membre de l'OTAN. On se dit non, effectivement, une confrontation militaire avec les États-Unis, Général Bruno Clermont, c'est totalement impossible, inenvisageable, ou bien je me trompe ?
Non, vous avez raison, c'est inenvisageable. Et il ne faudrait pas. Évidemment, on a l'exemple récent du Venezuela dans la tête, mais le Groenland, ce n'est pas le Venezuela. Les relations entre les États-Unis et le Venezuela et toute cette région et ses gouvernements n'ont rien à voir avec les relations entre les États-Unis, le Groenland, le Danemark, l'OTAN, l'Europe et tout ça. Donc on est dans une stratégie extrêmement déstabilisatrice, extrêmement désagréable, extrêmement insultante de la part de Trump, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il faut se configurer en conséquence et montrer aussi notre détermination, même si elle est symbolique, hein, parce que personne ne veut... Vous aurez noté que dans le déploiement de cet exercice, personne ne dit pourquoi on le fait. Simplement pour dire il faut protéger le pays, et quand on dit il faut protéger le pays, on a plutôt tendance à dire, en tout cas à faire croire qu'il faut le protéger contre les Russes et les Chinois, ce qui est un vrai objectif, alors qu'en réalité c'est le protéger contre une annexion des États-Unis. Donc effectivement, le deuxième objectif dans cette affaire là d'exercice dont on ne sait pas l'ampleur qu'il va prendre, c'est de ne pas froisser Donald Trump. Et à la tête de ne pas froisser Donald Trump, il y a le Danemark. Le Danemark veut y aller très doucement avec Donald Trump parce que tout le monde a peur d'une réaction de Donald Trump dont on peut comprendre d'ailleurs qu'on puisse avoir peur.
Le Danemark qui continue à acheter des avions de chasse américains, des F-35, Général Bruno Clermont.
Ah, c'est vraiment un fidèle, un très fidèle allié des Américains, comme la plupart d'ailleurs des pays du Nord de l'Europe qui ont besoin de la protection américaine, qui en ont eu besoin pendant très longtemps pendant la guerre froide, et puis qui ont continué à en avoir besoin, et ce besoin est réactivé par la guerre en Ukraine, mais la montée en puissance de la Chine. Oui, vous avez raison. L'ensemble des alliés de l'OTAN continuent à donner des gages aux Américains en achetant du matériel américain.
Parlons de l'Iran, mon général. Internet coupé dans tout le pays depuis une semaine, le régime des Mollahs organise un massacre à huis clos de sa population. Alors c'est difficile d'avoir de fait des estimations précises, mais on parle de jusqu'à 20 000 morts. Après avoir menacé là d'une intervention militaire, Donald Trump semble calmer le jeu. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'il recule? Comment vous interprétez cela?
À nouveau, c'est très difficile à savoir. Tant la situation est complexe, et tant la main de fer oppressive, répressive des autorités iraniennes est forte sur la population. Ce qui est certain, c'est qu'il semblerait quand même qu'il a vraiment fait volte-face en annulant une opération qui est en train de se préparer. Mais une opération qui ressemblait, alors, un peu à celle du Venezuela, même s'il ne s'agissait pas de capturer Khamenei, il s'agissait simplement de mettre une frappe violente militaire pour faire basculer, pour soutenir la révolte iranienne. Oui. En fait, il y a eu un grand coup de frein des pays du Golfe, et puis il y a eu le fait que finalement, cette révolte, elle n'est pas suffisamment mûre, mature pour provoquer une chute du gouvernement. Donc, si on fait une opération militaire, c'est quoi l'objectif militaire? Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif militaire vraiment atteignable. Il ne s'agit pas de lancer des bombes, il s'agit de lancer des bombes pour un résultat politique.
C'est-à-dire que décapiter le régime militairement, c'est aussi décapiter la croissance éventuelle d'une opposition organisée et soudée en Iran. C'est aussi ça, le double tranchant.
C'est possible aussi, et puis vous ne faites pas ça avec une seule frappe. Vous ne faites pas ça avec un seul raid. Il faut faire une campagne militaire, et la campagne militaire, aujourd'hui, les moyens américains ne sont pas dans la région pour faire une campagne militaire. Oui. Vous vous souvenez, quand il y a eu les frappes d'Israël au mois de juin, on voyait arriver des tas de matériel partout. Oui. Là, on ne voit pas ce matériel.
La guerre des 12 jours dont on dit
qu'elle a anéanti les Américains ont mis en place un dispositif gigantesque pour venir en appui des Israéliens. Ce dispositif, il n'est pas là. Typiquement, il n'y a pas de porte-avions dans la zone.
Mais les Iraniens ont plus de défense.
Donald Trump a demandé à un porte-avions de se mettre en route, il sera là dans une semaine dans la zone.
Effectivement, le Lincoln, l'USS Lincoln, porte-avions américain qui fait route vers le Moyen-Orient. Les Iraniens n'ont plus de défense anti-aérienne depuis la guerre des 12 jours. Ils n'ont plus les moyens de riposter à une attaque aérienne.
Ils ont quand même perdu beaucoup de capacités dans ce domaine. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Mais c'est vrai que la guerre des 12 jours a fait terriblement mal. Mais par contre, cette guerre n'a pas détruit l'ensemble des sites de missiles balistiques. En particulier parce qu'il y en a une grande quantité qui sont dans des bunkers souterrains très difficiles à atteindre. Donc la capacité de représailles de l'Iran en cas d'une frappe dans une logique jusqu'au boutiste du régime iranien, également, c'est un frein à une opération militaire parce qu'elle peut menacer les intérêts américains dans la région. Et je rappelle également les intérêts français parce qu'on a des militaires français un peu partout autour de l'Iran.
Général Bruno Carmont, merci. Consultant défense, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Vendredi 16 janvier, bon réveil, il est 6h10, le journal permanent, Christophe Lamar.
Le gouvernement acte l'impossibilité d'adopter un budget dans les temps, ce sera donc le 49-3 ou les ordonnances. Le Premier ministre se donne jusqu'à mardi pour choisir. D'ici là, les deux débats prévus aujourd'hui et lundi à l'Assemblée sont annulés. La crise au Groenland, le déploiement de troupes européennes ne change rien à l'objectif de Donald Trump. Il est toujours acquéreur, dit la Maison-Blanche. Le Groenland n'est pas à vendre, réplique le Danemark. La ministre de la Santé fait un geste pour calmer la colère des médecins. Elle renonce à leur imposer des objectifs de réduction de prescriptions d'arrêt maladie. Satisfaction des syndicats, mais il faudra des actes, préviennent leurs représentants. Emmanuel Macron convoque aujourd'hui un sommet sur la Nouvelle-Calédonie à l'Élysée. 3 jours pour tenter de stabiliser les institutions de l'archipel. Rendez-vous boudé par le FLNKS. Et puis début réussi pour les Bleus au championnat d'Europe de handball. Victoire 42-28 contre la République tchèque hier soir. Prochain rendez-vous demain contre l'Ukraine.
Merci Christophe. Le journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Excellent vendredi matin à l'écoute d'Europe 1. Bonjour, il est 5h52.
Et c'est votre club culture. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Alexandre.
Comme chaque vendredi, un roman culte. Cette semaine, vous avez choisi Le nom de la rose.
D'Umberto Eco, c'est rare, mais le film de 1986 réalisé par Jean-Jacques Hano est presque aussi bien que le roman qui date de 1980. Ça tient aussi à Christian Slater, Murray Abraham, Michael Lonsdale et bien sûr Sean Connery.
Mais Sean Connery qui joue le rôle de ce moine détective.
L'ancien inquisiteur Guillaume de Baskerville, oui, tout le monde a noté la référence directe à Sherlock Holmes, les chiens de Baskerville, c'est la marque d'Umberto Eco, romancier certes, mais aussi grand érudit de la langue et de la littérature, qui truffe ses romans de clins d'œil et références, qui ont tout un sens d'ailleurs, et c'est effectivement un roman policier, ce qu'on appelle un whodunit, qui a fait le coup, tout à fait dans la lignée de Sherlock Holmes, avec des meurtres, un huis clos et une galerie de suspects tous rassemblés. Le docteur Watson est là aussi, c'est lui qui raconte, c'est Atzo de Melk, le jeune secrétaire de Guillaume de Baskerville.
Alors nous sommes en quelle année exactement?
En 1327, le franciscain Guillaume de Baskerville est dépêché dans cette abbaye bénédictine, celle qui a inspiré Umberto Eco. La vraie s'appelle la Sacra di San Michele, Saint-Michel de la Cluse, dans le Piémont. Il y a eu un crime. On a cru d'abord à un suicide, mais non. Et il y en aura d'autres. Guillaume enquête grâce à son esprit de déduction et son rationalisme, mais il est bientôt empêché par Bernard Dogui, un inquisiteur dominicain qui met son nez là-dedans. L'enquête avance malgré tout. Et si tout ça était lié au livre? L'abbaye est reconnue pour son incroyable bibliothèque. Est-ce qu'un livre pourrait être au centre de ces crimes? 7 chapitres. 7, quand je vous disais qu'il se met ici et là des symboles, c'est un roman incroyable à cause du nombre de niveaux de lecture. C'est complètement fou, on peut le lire 5 fois, on n'ira sans doute pas le même livre. Umberto Eco était un grand maître subtil, érudit, et qui surtout, c'est quand même essentiel, savait tendre son intrigue et en faire aussi un roman policier prenant et génial.
Génial, oui, Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui est réédité donc chez Grasset. Merci Nicolas Caro.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.
Les nouveautés musicales comme chaque vendredi avec Joe Hume. Bonjour Joe.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute ce week-end?
Alors, on commence avec les vétérans britanniques Archive. Le 27 février, Archive, groupe culte de Londres qui mélange rock, pop et électronique depuis 30 ans déjà, sortira Glass Minds, leur 14e album. 3 extraits sont déjà disponibles et démontrent que le groupe n'a rien perdu de sa versatilité. Archive est un groupe à voir sur scène et ça tombe bien, ils seront à la cartonnerie de Reims le 28 mars, puis le 3 avril à la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
Pour changer, tiens, on continue avec un peu de jazz. C'est pas souvent, dites-moi.
C'est vrai que je parle trop rarement de jazz, mais là, il me semblait que c'était nécessaire. Figurez-vous que le prolifique membre des Red Hot Chili Peppers, Flea, après 44 ans à jouer de la basse et du funk, revient à ses premières amours, le jazz et la trompette. Traffic Lights est un extrait de son premier album solo, Honora, un disque résolument jazz qui incorporera également des éléments de funk et d'afrobeat sur lequel on retrouvera des invités tels que Tom York, le chanteur de Radiohead qu'on entend sur cet extrait, ou encore Nick Cave. Flea se produira avec son jazz band à Paris à l'Alhambra, ce sera le 28 mai prochain.
Bon, du très beau linge donc. Pour terminer, Joe, on revient avec vous sur la grosse sortie de la semaine dernière.
Oui, souvenez-vous, vendredi dernier, on se réjouissait du retour de Bruno Mars avec le single I Just Might. Hey, le morceau cartonne, mais figurez-vous qu'un internaute porté sur les remixes a trouvé que le rythme et la tonalité de ce single collaient bien avec un tube de 1998, Doo Wop Thing, de la chanteuse Lauryn Hill. Il a eu la bonne idée d'assembler les deux morceaux et il faut bien reconnaître que bah, ça fonctionne. Après avoir été publié sur Instagram par le remixeur, ce mashup ludique a été salué par Bruno Mars lui-même avant d'enflammer Internet au point que cette nouvelle version bricolée à la maison pourrait dépasser la notoriété de son single original.
Ah, alors dans ce sens-là, c'est pas tout à fait la règle effectivement, mais ça s'est déjà produit. Merci Joe Hume.
Excellent début de journée à l'écoute d'Europe 1. Bonjour, il est 5h57, Alexandre.
Votre météo, Marion Gagneau, arrive dans un instant, dans la prochaine demi-heure sur Europe 1. Rendez-vous avec Omblin Roche. Bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Dans votre partition à 6h20.
Ma vie n'aurait pas eu le même goût sans lui, les mots de Maxime Le Forestier à propos de Georges Brassens.
C'était un jour d'été, comme on en fait beaucoup, entre mer et garrigue au début du mois d'août. Un air de chanson dans la tête.
Son idole l'a accompagné à chaque moment clé de sa vie, première guitare, premier album, lorsqu'il est au creux de la vague aussi. Maxime Le Forestier et Georges Brassens dans la partition dans 20 minutes sur Europe 1.
Et dans un quart d'heure, Marion, l'édito de Laurent Tessier.
Et Laurent nous parlera de l'alerte du directeur général de Safran sur la chute du niveau des élèves en mathématiques.
Au programme, côté ciel, de la grisaille et de l'humidité pour une bonne partie du pays.
Oui, alors la Bretagne, ça c'est la bonne nouvelle, va retrouver quand même un temps plus sec, hein, c'est bien tombé. Comme prévu en Bretagne hier, 57 mm relevés à Quimper. Non, aujourd'hui la perturbation, elle va plutôt concerner cet axe sud-ouest-nord-nord-est. Hein, donc il va pleuvoir de l'ouest des Pyrénées jusqu'à la Champagne-Ardenne et à l'ouest de la Lorraine. Elle va perdre en intensité, cette perturbation, donc les pluies seront plus faibles. En revanche, attention, parce que c'est le début d'un épisode très pluvieux sur les Cévennes. Vraiment, les cumuls seront marqués, puisqu'en 3 jours, Alexandre, on pourrait avoir jusqu'à 250 mm entre les Cévennes, le Languedoc et le Roussillon. Donc, week-end, précaution, soyez vraiment prudents dans le sud-est. À l'arrière de cette perturbation, je vous le disais, sur le nord-ouest, le temps sera plus calme, avec quelques averses ici et là. Et si vous êtes en Alsace, eh bien, vous avez de la chance aujourd'hui, parce que c'est là que le ciel sera le plus lumineux. Partout ailleurs, c'est pas terrible, mais les températures sont toujours très douces, avec 8 degrés attendus à Annecy cet après-midi, 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 11 degrés à Saint-Étienne, 12 à Paris et à Colmar, 13 degrés à Brive, Rennes, Pau et Valence, 15 degrés à Perpignan et à Nantes, et jusqu'à 17 degrés à Bastia.
Merci Marion Gagnot. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 6h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
À la une ce matin, l'Union.